Bonjour à tous, c'est une joie de louer Dieu ensemble, enfants et grands. C'était touchant de les voir là, nous encourager. Et comme vous allez voir le texte ce matin, en rapport avec cela, je vous invite à chercher l'évangile selon Marc. Nous étudions en église cet évangile, certainement le premier qui a été écrit. Donc déjà, si on s'intéresse à la personne de Jésus, sa vie, un peu sa biographie, Marc, c'est un bon endroit pour commencer. Et puis si Marc, c'est aussi un des premiers manuels de ce que c'est que la vie chrétienne, un manuel de disciples pour suivre Jésus. Et nous voulons aussi apprendre de cet évangile sur la manière qu'on peut être chrétien dans ce monde. Donc ce matin, je vous invite à chercher le chapitre 9, surtout 10, un petit paragraphe en chapitre 9, et on va enchaîner avec chapitre 10. Donc les références sont sur l'écran. Je pense que vous serez aidés ce matin si vous avez une Bible devant vos yeux. Le texte est un peu long, mais ça permettra de voir l'ensemble. Donc soit une Bible ou sur votre téléphone, suivez avec moi en Marc chapitre 9, verset 33. Donc il, Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom, un de ses petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Nous allons poursuivre en chapitre 10, à partir du verset 13, jusqu'à la fin du chapitre. « On lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne leur en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a que de bon que Dieu seul. » Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il soit difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait en quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?»« Nous le pouvons, » dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui, répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Marc chapitre 10, c'était long, mais vous avez été attentifs. Bravo. En ce moment, le monde entier est appelé par l'actualité en Europe et notamment par le président ukrainien Zelensky. C'est comme s'il nous a redonné goût et foi dans les valeurs telles que le courage, l'esprit de sacrifice, de renoncement, des qualités si rarissimes parmi les dirigeants du monde aujourd'hui. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir son parcours particulier d'acteur dans une émission qui s'appelle Serviteur du peuple. Il était l'acteur dans un où il jouait le rôle du président de l'Ukraine. C'était pour être humoristique une série de comédie. Serviteur du peuple. Et le comble, c'est que par la suite, il est devenu un président qui semble être au service de son peuple. Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissements de la géopolitique, mais l'Occident est quand même surpris de voir un dirigeant qui devient un serviteur du peuple. Ce n'est plus une blague. C'est quelque part, un président serviteur du peuple, c'est un sujet pour rire, pour blaguer, mais une réalité. Et on y reconnaît une vraie grandeur. Ça nous fait réfléchir. La vraie grandeur n'est pas de se donner des airs de grandeur. La vraie force n'est pas une plus forte armée. En tout cas, dans la manière que nous réfléchissons quand on compare un peu Poutine et Zelensky. Quelle est la vraie force? Quelle est la vraie grandeur? Ces questions nous interpellent. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est Jésus le premier à parler comme ça, dans ce que nous avons lu. Et c'est vraiment le seul même qui a fait le cœur de son message. Les premiers seront les derniers. L'esclave, c'est le premier. Le texte ce matin était long, mais je pense que Marc fait exprès d'imbriquer toutes ces scènes. Il y a les enfants et les adultes. Il y a l'homme riche et le mendiant. Il y a les serviteurs et les esclaves. Et on entend un peu le même sujet de discussion tout au long de ma lecture ce matin. Alors, j'aimerais faire cet exercice que nous avons fait avec le groupe Creuser les Écritures. Vous vous souvenez, il y avait un parcours de formation dans notre église qui s'appelle Creuser les Écritures. On apprend un peu des manières d'étudier la Bible et avec des outils. Un des outils, c'était de remarquer un peu les répétitions, les choses qui reviennent surtout dans un contexte proche. Alors, j'ai fait la liste des choses qui reviennent souvent ici dans ce texte. C'est intéressant. Deux fois, il y a une scène avec des petits-enfants où Jésus prend un petit-enfant dans ses bras. Deux scènes rapprochées où Dieu prend un petit-enfant dans ses bras. C'est parlant. Deux fois, il y a une discussion parmi les disciples, qui sera le plus grand? D'abord dans une maison vers Capernaum et pas sur le chemin avec finalement Jacques et Jean qui veulent être les plus grands. Trois fois, Jésus parle des premiers et les derniers. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Vous avez les références là pour confirmer. Deux fois, les gens reprennent des personnes non importantes qui veulent accéder à Jésus. Les disciples reprennent les petits-enfants et la foule reprennent Bartimée. Le même mot, ils reprenaient. Non, ne dérangez pas quelqu'un d'important. Et Jésus arrête et s'intéresse à la personne non importante. Deux fois, la question revient. Que veux-tu que je fasse pour toi? Les disciples l'ont demandé. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Intéressant. Côte à côte. Et enfin, trois fois, il s'agit de suivre Jésus ou pas. Le jeune homme riche, suis-moi, il ne peut pas. Les disciples, nous t'avons suivi, le suivant chemin vers le chemin de Jérusalem. Et enfin, le chapitre termine avec Bartimée. Dès qu'il recouvre la vue, il suivit Jésus dans le chemin. Et on sait que c'est un mot important pour Marc, suivre Jésus, c'est l'appel de Jésus, suis-moi. Et ici, on le retrouve trois fois dans le même chapitre. Alors, toutes ces répétitions, c'est comme si Marc fait exprès. Alors, comment mettre tout ça ensemble maintenant? Est-ce que vous voyez une idée qui se dégage? Des petits-enfants, finalement, qui sont plus avancés que les adultes. Un mendiant qui suit Jésus là où un riche réussi ne peut pas. Un esclave qui est plus grand qu'un chef, qu'un tyran. En fait, tout ça, vous voyez, c'est des derniers qui deviennent premiers, c'est les premiers qui deviennent des derniers. Avec cet appel que nous devons être parmi ces derniers si nous voulons suivre Jésus. Alors nous allons voir ce matin que oui, humainement parlant, c'est difficile, voire impossible de suivre Jésus et d'adopter les valeurs de son royaume, ces valeurs où les premiers sont les derniers. C'est difficile, voire impossible de suivre Jésus et de vivre les valeurs de son royaume. Mais c'est la meilleure voie. De ne pas le faire, c'est plus triste. De ne pas le faire, c'est pire. Et grâce à Dieu, ça devient possible. Donc oui, voyons la difficulté, voire l'impossibilité, comme dit Jésus, de suivre Jésus. Tout d'abord, si l'amour propre nous est prioritaire. Et deuxièmement, si la richesse nous est plus chère. D'accord? La difficulté, voire l'impossibilité de suivre Jésus. Si l'amour propre nous est prioritaire. Alors, les disciples, en ce débat récurrent, c'est incroyable, qui d'entre nous est le plus grand? Je ne sais pas s'ils se sont posés directement de cette manière, parce que c'est un peu, on dit, il faut vraiment être gonflé pour se parler comme ça, en chemin. Qui d'entre nous est le plus grand? Pensez-moi. Et l'autre, alors, on a du mal à comprendre comment c'était vraiment le sujet de discussion. Mais tout le long du chemin vers Jérusalem, on le trouve ici, on le trouve deux fois dans ce texte, et même jusqu'à la veille de sa mort, si vous lisez un autre évangile, à table, la veille de sa mort, lors de la Sainte Cène, la même discussion, le même débat, qui d'entre nous est le plus grand? Vous voyez, chacun va être le plus grand, chacun va être le premier, chacun va être le plus important. Alors, quand Jésus le questionne, il n'ose pas avouer que c'était le sujet de la discussion. Donc, on sait qu'ils se sentent quand même un peu coupables d'avoir cette discussion. Ils ne veulent pas vraiment avouer. Comme nous, on n'ose pas le dire. Et peut-être on n'ose pas le dire haute voix quand on est... Mais c'est quand même une pensée récurrente chez nous. Comme un logiciel qui tourne en permanence, en arrière-plan. Qui d'entre nous est le plus grand? Combien de minutes va s'écouler à la fin de ce culte avant que cette pensée soit là, ou une chose que vous allez penser, une chose que vous allez dire? Alors, on va. Parce que constamment, on est en train de se comparer, de se placer, de se classer. Qui est le plus grand? Alors, on va le faire sur la base de différentes choses. Ici, c'est eux, ils avaient une notion un peu politique de s'asseoir ils pensaient que prochainement, un royaume politique allait inaugurer. Donc, ils voulaient les places des ministres. Donc, ils se classaient un peu sur un système politique. On n'est pas loin de ça. Hein. Il suffit de regarder autour de nous. Le qui est le plus grand est très présent en ce moment, politiquement. Mais on va utiliser d'autres critères, la beauté physique, les talents, toutes sortes de systèmes de classement que nous avons. Alors déjà, quand ça se passe entre collègues, ou quand ça se passe entre disciples dans une église, ça crée une ambiance pourrie, des disputes. Et quand ceux qui le font ont des armes nucléaires, c'est encore pire. Qui d'entre nous est le plus grand? Parce que moi, j'ai cette arme nucléaire, là, oui. Donc vous voyez, le monde entier fonctionne sur ces principes et la pensée n'est jamais loin de nos pensées. Et donc Jésus veut essayer de faire comprendre à ses disciples, non, non, et si vous allez me suivre, on ne peut plus fonctionner comme ça. Alors pour nous défaire de cet amour propre, ce zèle de grandeur qu'on veut se donner, Jésus nous dit de ressembler d'abord à ceux qui accueillent des enfants, et ensuite il va nous dire de ressembler aux petits-enfants. D'abord, ressembler à ceux qui accueillent les petits-enfants, et puis ensuite, ressembler à ceux, aux petits-enfants. Il y a les deux scènes avec les petits-enfants, déjà en chapitre 9. Et Jésus prend un petit-enfant dans ses bras, parce que pour répondre, pour aider les disciples à mettre fin à leur discussion, qui sera le plus grand, il prend un petit-enfant dans ses bras. Alors, il faut imaginer la scène. Jésus avec 12 gars, là autour de lui, des hommes pêcheurs, un métier physique, tout ça, ils sont là. Et Jésus est là, et puis il prend un petit enfant. Quel âge a cet enfant? Bon, il y a une discussion sur le mot grec et tout ça, mais assez petit pour le prendre dans ses bras. Certains de ces enfants, je n'aurais pas pu prendre dans mes bras tout à l'heure. Mais donc, un enfant qu'on peut prendre dans ses bras, ça reste quand même assez petit. Et voilà Jésus, qui a un petit enfant dans ses bras. Est-ce que c'est une scène très régalienne, très, très impressionnante? Est-ce que dans les meetings politiques, vous voyez les candidats prendre un petit enfant dans les bras pour gagner des votes? Ben, déjà, à l'époque, il faut savoir, dans les sociétés traditionnalistes, oui, les enfants n'ont pas beaucoup d'importance, en tout cas à cet âge. Plus tard, on va pouvoir les exploiter dans les champs. Mais à cet âge, on ne veut pas les voir, on ne veut pas les entendre. C'est l'affaire des femmes et tout ça, non merci. Donc, c'est déjà que Jésus trouve un petit enfant et qu'il le mette un peu au milieu. Déjà, lui, ça doit surprendre tous ces hommes. Avec le temps, nous, dans les sociétés modernes, on a fait du progrès. Oui, on valorise les enfants, on aime les enfants. Il y a beaucoup de choses pour les enfants. Mais même aujourd'hui, pour être grand, pour être réussi professionnellement, autre, ne faut-il pas se débarrasser un peu des enfants? Donc, vous voyez, accueillir, côtoyer, tenir les enfants au nom de Christ, c'est ce que dit Jésus, quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants, donc recevoir l'enfant au nom de Christ, c'est le recevoir par la foi, c'est le recevoir avec Dieu, pour présenter les vérités de Dieu à l'enfant. Donc, c'est pas juste côtoyer les enfants, mais les accueillir par la foi, au nom de Dieu, pour transmettre la vérité, eh bien, oui, c'est déjà un rôle qui humilie, en quelque sorte. On ne peut pas se donner des airs de grandeur si on passe beaucoup de temps avec des enfants. J'ai eu mon frère récemment, dimanche soir. Et il est à Genève, impliqué dans le ministère. Il fréquente une église. Et dimanche soir, on prend des nouvelles, comment s'est passée la journée. Et il dit aujourd'hui, c'était journée flop. Catastrophe. Ah bon? Ah bah oui, aller à l'église avec un bébé et revenir, ça nous a... Et puis, il parle d'autres couples, vous voyez, c'est des gens qui... des PDG, des directeurs, des responsables de grands ministères, et puis... Mais vivre un culte avec un bébé, c'est chaud parfois. Alors, courir des marathons, gravir le Mont Blanc, ça, pas de problème. Mais survivre un culte avec un bébé qui pleure, on est d'accord, des fois, c'est... sportif. Je vois ces mamans-là, je les admire. Je ne serais pas étonné de voir que les places importantes au ciel seraient accordées aux mamans dévouées, aux mères, les mères au foyer, les monitrices d'envol. Ce n'est pas toujours très glorieux, très, très grandiose de s'occuper des enfants. Il y a un côté qui nous humilie. Et Jésus dit à ses 12 disciples, quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants, il reçoit moi-même. Vous voyez, et puis au-delà, je pense que cette phrase, un de ses petits-enfants, Jésus peut l'utiliser pour parler même plus qu'une certaine tranche d'âge, mais cette manière de s'intéresser, d'accueillir, de prendre soin des personnes non importantes dans la société, des handicapés, des faibles aux yeux du monde, de le faire au nom de Christ, c'est une manière que nous avons montré que nous avons répondu correctement à Dieu, que nous avons senti, que nous avons reçu Dieu et sa vérité, et de pouvoir s'intéresser à ce genre de personnes Et des fois, ça demande un peu d'humilité, ça demande un sacrifice pour en prendre soin. Donc, Jésus dit à ses disciples, et si vous voulez me suivre, l'amour propre en priorité, ça ne marche pas. Et si vous voulez vous défaire d'un amour propre, prenez soin des petits-enfants. Accueillez-les. Et puis, il y a une scène suivante, encore avec les enfants, ça revient, donc comme si Marc veut mettre l'accent pour nous défaire de l'amour propre. Et la leçon, cette fois-ci, va un peu plus loin, non seulement recevoir les petits-enfants, mais ressembler aux petits-enfants. Donc ça, c'est dans chapitre 10, verset 13, on lui a amené les petits-enfants, les disciples les reprennent, veulent les repousser, et Jésus dit non, laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, vous voyez, Jésus veut qu'il y ait des enfants dans les parages, il veut que des enfants aient accès à sa personne, il veut qu'ils fassent partie de son peuple, de ses disciples, de son église, car le royaume de Dieu et pour ceux qui y ressemblent. C'est-à-dire, on a besoin des enfants, de les voir, là, dans nos foyers et dans nos églises, pour être rappelé que le royaume de Dieu ressemble à ceux qui sont comme eux. Alors, quelle qualité cela évoque-t-il? Quelle qualité faut-il ressembler? Je pense encore à Jésus qui a repris un petit enfant dans ses bras pour le bénir. Donc, on parle d'un petit enfant, encore une fois. Je pense qu'un petit enfant dans les bras, ça évoque une certaine petitesse, une dépendance, une confiance facile, un côté décomplexé, sans calculer. Vous les avez vus, les réponses. Qui d'entre nous aurait pu répondre aussi juste, finalement, que notre ami, qui est le plus important? Ben, c'est pas ça qui compte. Est-ce que vous le croyez vraiment? Comment les ressembler alors dans la vie quotidienne? Comment les ressembler dans notre manière d'être? Quand on se pose, qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je m'affiche pour Jésus ou si je demande pardon? Ou si je suis Jésus, est-ce qu'il va pouvoir à mes besoins? Ces questions, les petits-enfants ne se les posent pas. Ils ne sont pas en train de calculer ce que les autres pensent de moi, calculer qui va prendre soin de moi. On voit une confiance, c'est une manière sans calculer. C'est cette qualité, certainement, qui veut ressembler, une simplicité. Et ça, c'est difficile pour nous, les adultes. On a toujours une arrière-pensée. Il y a toujours des choses, on met certaines choses avant, on cache d'autres choses. Mais le royaume est pour ceux qui le ressemblent, ceux qui arrivent à se défaire de cet amour propre, de ce sentiment d'être si important que les enfants ne le sont pas. On veut tous être le plus important. Et Jésus dit non. Mais comme nous, les disciples peinent à capter la leçon parce que ça revient. Et donc, ils ont déjà vu deux fois les petits-enfants, soyez comme les petits, le premier sera le dernier. Et quelques kilomètres plus tard dans le chemin, quelques heures plus tard, Jacques et Jean, Jésus, tu dois faire quelque chose pour nous. On veut avoir les meilleures places. On veut être les premiers. On veut être assis à ta droite et à ta gauche. Parce que dans cette idée d'un trône avec les places à droite et à gauche, c'est très important. Accorde-nous, verset 36, accorde-nous d'être assis à ta droite et à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Vous le savez mieux que eux, mais Jésus se dirige vers Jérusalem. Il vient de dire, il se dirige vers Jérusalem pour être crucifié. Et nous savons que dans le reste du Nouveau Testament, que son heure de gloire, ce moment qui vient dans son règne, le moment qui se montre vraiment le roi des rois, eh bien, c'est le moment qu'il s'est laissé une croix. Alors, est-ce que voudrez-vous les places à droite et à gauche à ce moment-là? Quelles sont les places à droite et à gauche de Jésus quand il est sur la croix? Eh bien, c'est d'autres croix. Vous le savez bien, il y avait les places des brigands. Et Jacques et Jean, sans savoir, on veut être à ta droite et à ta gauche. C'est pour ça que Jésus dit, vous ne savez pas vraiment ce que vous demandez. Le comble, c'est que les autres s'indignent. Pourquoi sont-ils fâchés, les autres? Parce que Jacques et Jean se montrent une immaturité qu'ils n'avaient pas appris leur leçon il y a quelques secondes. Vous êtes obtus, Jacques et Jean? Non, ils s'indignent. Parce qu'ils veulent aussi les mêmes places. Vous le savez. la difficulté, voire l'impossibilité de suivre Jésus si l'amour propre nous est prioritaire. Et donc Jésus va terminer cette discussion avec un appel à vivre autrement. Non, il n'en est pas au milieu de vous. Ça ne peut pas être les réflexions qui vous animent. Quiconque veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Et ça, oui, je reconnais, c'est difficile, voire impossible d'adopter cette attitude. Ça ne marche pas en politique, ça ne marche pas en géopolitique, ça ne marche pas en guerre nucléaire, ça ne marche pas entre les collègues, on aurait tendance à dire. Mais Jésus, il dit si ça marche, je vais vous le prouver. Et il termine la discussion en disant, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Oui, c'est difficile, voire impossible de suivre Jésus. C'est pour ça que Jésus se donne ici, premièrement, un exemple suprême d'un premier qui devient le dernier. Il dit, le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme, c'est un titre royal qui vient de l'Ancien Testament. Encore, il prétend à un peu à la royauté, à l'importance. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Vous voyez, c'est cette attitude qui doit caractériser nous, disciples de Christ. Et c'est impossible, mais c'est possible parce que nous avons Jésus qui l'a fait. C'est cette attitude qui donne grandeur et force à un couple au quotidien, à une église, lors des rencontres, mais lors des AG, lors des cellules, lors des moments de service. C'est cette attitude qui donne force à un pays, c'est cette attitude qui donne force à une équipe de travail. C'est l'expliquer comme ça, humainement parlant, non. Mais parce que Jésus est Jésus et à cause de ce qu'il a fait, c'est le cas. Donc oui, Jésus est un maître impossible à suivre si l'amour propre nous est prioritaire. Et maintenant, la pensée suivante qui est très liée, ça va passer par la richesse et l'argent. Mais comme vous allez voir, c'est quand même lié. C'est la richesse et l'argent, c'est une manière de vivre, de se voir premier et de se donner des airs de grandeur. Mais encore une fois, la difficulté, voire l'impossibilité de suivre Jésus si la richesse nous est plus chère. C'est le cas pour cet homme riche, c'est une grande partie du texte dans le chapitre 10. Cet homme qui vient et qui se jette à genoux devant Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et dans ce qui va suivre, dans la manière que Jésus va mener la discussion, en fait, Jésus va attrister cet homme. Et plus encore, il va effrayer les disciples. Alors, qu'est-ce qui va étonner? Qu'est-ce qui va troubler? Qu'est-ce qui va effrayer tout ce monde? En fait, c'est encore la façon que Jésus renverse les valeurs. Encore la manière qu'il va dire les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, et ça n'a pas beaucoup changé depuis, à l'époque, les richesses sont considérées comme signe de bénédiction divine. Si on est riche, c'est qu'on a réussi quelque part, on a réussi avec Dieu. Et il y avait même des cas dans l'Ancien Testament, effectivement, Abraham, Isaac, Jacob étaient plutôt riches, donc ils fonctionnaient un peu comme ça. Ils oubliaient un peu psaume 49 qui a été oublié, qui a été lu ce matin. Ça, ils l'avaient oublié, il ne faut pas se confier dans ses richesses. Mais ils voyaient les richesses comme signe de réussite, de bénédiction divine. On peut la penser, si tu es riche, tu as mieux réussi ta vie aux yeux de Dieu. Et si tu n'es pas riche, comme des mendiants aveugles, quelque part il y avait un problème. Un jour, les disciples voyaient un aveugle, ils ont dit, mais qui a péché ou qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi il est dans cet état? Parce que certainement, il a moins bien réussi moralement que d'autres. Et Jésus doit corriger ça. Donc c'est comme ça que réfléchissent les disciples, les riches, signe de bénédiction divine. Alors quand Jésus dit, il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu, les disciples sont effrayés, sont choqués, sont étonnés. Si c'est difficile, voire impossible pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu, quel espoir pour nous autres? Nous, eux, ils sont en avance par rapport à nous. Quel espoir pour nous? Vous entendez leur étonnement, leur question. Alors, qui peut être sauvé? En fait, Jésus veut montrer que c'est impossible pour tout le monde, riche et pauvre. On peut rater le royaume de Dieu en étant pauvre, on peut rater le royaume de Dieu en étant riche. Personne n'est suffisamment bon ou riche pour se racheter, comme disait Jean-Philippe tout à l'heure, à partir de Psaume 49. Personne n'est suffisamment bon ou riche pour se racheter. On ne peut pas se racheter au niveau moral par de l'argent. Le problème, c'est que les riches le voient moins. C'est ça le problème. Les riches le voient moins que d'autres. C'est un peu le piège des richesses, c'est de s'y confier. C'est de se voir bon ou meilleur à travers elles. C'est de les utiliser pour dire, voilà, premier et dernier, qui est le plus grand? Ah, moi j'ai cette salaire, j'ai cette poste, j'ai ça, alors je peux me classer assez facilement sur un système de premier et des derniers, meilleur, pire, grâce à mes richesses. C'est ça le piège, et ça Jésus, il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est le cas de cet homme, il se croit bon, que Jésus ne va pas contester en soi. Je crois qu'il y a un côté sincère dans la démarche de cet homme. Mais il veut l'amener à voir que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est pour ça qu'il dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il y a que Dieu qui est bon. Et la preuve aussi, j'aimerais vous attirer sur ce fait, la preuve, cet homme, c'est un jeune homme, on apprend par d'autres évangiles, il est un chef, il est jeune, il est riche. Et puis, visiblement, une bonne éducation, des bonnes mœurs, il a, aux yeux de tout le monde, dans cette société, la réussite. Mais si cet homme, dans la fleur de l'âge, dans sa jeunesse, avec toute sa réussite morale, toute sa richesse, s'il court, il se jette aux pieds de Jésus, il dit « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Quelque part, il sent que quelque chose lui manque. Il a tout. Il a la richesse. Il n'est pas sûr qu'il ait la réussite éternelle. Il n'est pas sûr qu'il ait la vie éternelle. Il a toute l'obéissance d'une religion. Il n'est pas sûr qu'il a la vie éternelle. Et c'est ça le problème. Si on se confie dans les richesses, ou si on se confie dans ce qu'on fait, est-ce que j'ai assez? Est-ce que je suis assez riche? Vous ne le saurez jamais si vous partez dans cette voie-là. De vivre comme tout ça tout le temps, ce n'est pas une solution viable. Que dois-je faire? Est-ce que j'ai assez? Est-ce que Dieu est satisfait de moi? Alors Jésus dit, il te manque une chose. Alors moi, je vous demande la question, qu'est-ce qui lui manque? Quelle est la chose qui lui manque? Parce qu'après, Jésus dit, va, vends, donne tout ton argent aux pauvres et viens suis-moi. Cinq choses. Il doit faire cinq choses, mais il lui manque une chose. Alors si on lui dit, ce qui lui manque, c'est un vœu de pauvreté, Dieu dit, non, c'est pas ça. Comme je disais, on peut être pauvre et ne pas entrer dans le royaume des cieux non plus. Là. En fait, ce qui lui manque, il te manque une chose. Et il lui manque un sauveur qui est bon, qui seul est bon, qui seul est parfait, qui seul a la capacité de racheter, qui paie pour lui. Un sauveur qui fait à sa place, qui paie à sa place. C'est ça qui lui manque. Et Jésus l'invite à ne plus se confier dans ses richesses et se confier en Jésus seul. Jésus voit qu'il ne peut pas chanter ce cantique en Jésus seul, et mon espoir, c'est... Lui, il a tout bien fait selon une religion, mais il ne peut pas dire en Jésus seul. Et Jésus seul peut vraiment nous donner le rachat, de sorte qu'on ne demande plus qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle, qui nous donne cette assurance. Je ne peux rien faire, moi, c'est Jésus qui a tout fait. Et là, ça fait taire les inquiétudes et les questionnements, et on vit dans une confiance comme un enfant. Ces enfants on venait de les voir juste avant, qui sont bien dans les bras. Et ce jeune homme, ce n'était pas son cas. Il a besoin de se confier en Jésus et pas dans ses richesses, comme nous ce matin. Et c'est ça, c'est dur, c'est difficile, c'est impossible, humainement parlant. Alors il s'en va tout triste, parce qu'il avait beaucoup de richesses. Mais Marc va nous aider avec une dernière histoire, je termine avec ça, c'est l'histoire de Bartimée. Comment ne pas comparer un peu Bartimée, le mendiant aveugle, et le jeune homme riche? Beaucoup de choses qui ressemblent. Déjà dans Marc, c'est intéressant, Bartimée se distingue du jeune homme riche parce que Bartimée est nommé. Bartimée, on a son prénom. Le jeune homme riche, comment il s'appelle? Vous ne le savez pas. Alors qu'il était très connu, très important. Mais c'est une manière de Marc de montrer ce qui est important aux yeux de Jésus. C'est plus ce Bartimée que ce jeune homme riche. si on voulait recruter des gens pour une église, pour un groupe de... Est-ce que vous auriez recruté le jeune homme riche ou un Bartimée? Intéressant cette différence entre l'un qui est nommé et l'autre qui n'est pas. On voit aussi comme les petits-enfants, plusieurs reprennent et ne veulent pas que Bartimée, lui qui crie, le reprenne, tais-toi, tu te déranges. Parce qu'un homme comme ça, c'est pas important. Mais tout le monde fait place à ce jeune homme qui court, qui se jette. Lui, on veut bien qu'il dérange Jésus, pas Bartimée. Et puis une autre différence, le jeune homme, il vient bon maître. Et Jésus va dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu sais vraiment de quoi tu parles? C'est un titre un peu vague. Mais Bartimée, bien mieux. Jésus, fils de David. Fils de David, c'est pour eux, c'est, ouais, tout est là pour les justes. Fils de David, c'est le roi promis, c'est le Messie, c'est celui qui va enfin protéger, délivrer, venir. Et donc cette foi messianique qui est presque au clair, mieux que bon maître. Jésus, fils de David. Donc Bartimée déjà voit plus clair. Bartimée est déjà plus riche en quelque sorte que ce jeune homme. Et même Bartimée, il se distingue même des disciples qui sont encore en quelque sorte aveugles. Quand Jésus demande aux disciples, que voulez-vous que je fasse pour vous? Que répondent les disciples? On veut des premières places. Quand Jésus demande la même question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vue, que je puisse voir, pour voir Jésus. Les disciples auraient dû répondre de cette façon. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Qu'on puisse voir ce qui tu es vraiment. Pourquoi on va vers Jérusalem? Pourquoi cette croix? Pourquoi cette résurrection? C'est ça qu'on a besoin de voir pour mieux te suivre. Mais non, ils voulaient des premières places. Vous voyez donc Bartimée en suivant Jésus devient pour nous un exemple. Encore d'un dernier qui passe au premier. D'un cas impossible aux hommes, mais possible à Dieu. C'est lui qui se mit en route pour suivre. Le chapitre termine avec ça. Il suivit Jésus dans le chemin, alors que le jeune homme riche ne pouvait pas le faire. Alors, est-ce que Jésus est un maître impossible à suivre? Tout ce chapitre nous décourage presque de suivre Jésus. Il faut être comme un petit enfant? Ça, c'est dur, difficile. Il faut être comme un mendiant aveugle? Ah, ça c'est dur, ça c'est difficile. Il faut être comme un esclave, comme un serviteur pour suivre Jésus. Ah, ça c'est dur, ça c'est difficile, ça c'est impossible. Tout ça c'est troublant et on se trouve un peu comme les disciples, verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Ils sont troublés, suivent avec crainte parce que Jésus vient de dire les premiers sont les derniers, c'est impossible aux hommes, les riches c'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, les enfants ils comprennent mieux que les adultes. C'est ça être disciple de Jésus-Christ, c'est ça suivre Jésus. Alors là, on marche, où est-ce qu'il va nous amener avec cette attitude-là? Il va nous amener vers la perte, il va nous amener vers la mort. Oui. C'est difficile de suivre Jésus. Et encore, on n'a pas parlé de ce que Jésus pense du mariage, du divorce, de l'adultère. Des versets qui sont au début du chapitre 10. Là encore, un standard élevé qui semble impossible à atteindre. Jésus est un maître impossible à suivre, je vous le dis. Mais c'est ce moment où l'on se rend compte que c'est impossible et que Jésus nous regarde et dit « Oui, cela est impossible aux hommes et c'est possible à Dieu. » C'est ce moment où l'on se rend compte que c'est impossible de vivre les valeurs de son royaume, d'être comme lui. Que le salut est pas loin, que le salut est proche. Et c'est ce moment où on se rend compte que c'est impossible à nous. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. C'est pour ça qu'on a besoin d'un rançon. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui paie à notre place, quelqu'un qui fait à notre place, quelqu'un qui arrive à faire ce que nous n'arrivons pas à faire. Et là, on peut chanter, oui, c'est non pas moi, mais c'est Christ en moi que je suis. Et quand il nous ouvre les yeux à ça, que c'est impossible à suivre, mais c'est possible par lui, là, on le suit pas avec tristesse, mais avec joie. On avance. On est prêt à être les derniers. Parce que Jésus a dit, les derniers seront les premiers. Et moi, j'ai une preuve de ça. C'est que Jésus a été crucifié, mais ensuite il est ressuscité. Et il est vraiment devenu le premier. Donc cette voie marche. Il faut se patienter des fois, il faut accepter d'abord la croix, mais ensuite la résurrection. Et même il dit à ses disciples qui ne comprennent rien à ce moment, il dit, c'est vrai, un jour, vous allez faire, vous allez pouvoir me suivre, parce qu'ils vont être transformés. Et ce qui est impossible aux hommes devient possible à Dieu. Et même Jacques et Jean, ils vont être des super disciples, pas égoïstes. Et c'est eux qui vont donner leur vie aussi pour la cause de l'Évangile. Et c'est ce qui nous appelle à faire. Si ça paraît impossible aujourd'hui, il faut voir ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Si vous lui demandez, si vous marchez sur ce chemin, si vous lui demandez de vous ouvrir vos yeux aussi pour pouvoir le suivre.